matinée sur France Inter, il est 19h. Le journal, c'est Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Des pétroliers en feu dans le détroit d'Ormuz et la planète à deux doigts de s'embraser. Réunion du Conseil de sécurité à la demande des Américains. L'Iran parle de coïncidences troublantes alors que le japonais Abe est à Téhéran. Que sait-on de ces attaques dès le début du journal et de ce lieu stratégique à plus d'un titre? Au sommaire également ce soir, c'est enferme pour Patrick, 4 ans avec sursis pour Isabelle, les réquisitions sévères au procès Balkany, l'embarrassante Nathalie Loiseau, plus candidate au poste de leader des centristes européens, l'embarrassant Jean-Louis Borloo, 1 an après l'enterrement de son rapport sur la banlieue, Versailles comme vous ne l'avez jamais vu, en photo et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien écoutez, on va essayer d'en parler avec décontraction, pas de stress, pas d'angoisse par-dessus l'angoisse, mais de quoi donc? Eh bien des révisions du bac, il reste 3 jours, seulement 3 jours avant le début des épreuves. Et qu'est-ce qu'on fait de ces 3 jours? Est-ce qu'on révise encore? Est-ce qu'on fait des fiches? Est-ce qu'on va au ciné? Est-ce qu'on fait défiler les tutos sur internet? Eh bien vous nous le direz, 01 45 24 7000.
France Inter. Un tiers du pétrole mondial passe tous les jours par le détroit d'Ormuz et voilà que pour la deuxième fois en un mois, des navires y sont pris pour cible, bateaux en flammes, explosions, torpilles. Il y a beaucoup de questions sur l'origine de ces attaques, on va y essayer d'y répondre. D'abord avec vous, bonsoir Aurélien Colli depuis Beyrouth.
Bonsoir Sébastien.
Pour détailler les faits Aurélien qui ont eu lieu ce matin près de ce détroit d'Ormuz entre Oman et l'Iran sur 2 pétroliers.
Oui, le premier navire touché est norvégien, le Front Alter, transportant de l'éthanol en provenance du Qatar. 3 explosions à bord après une attaque, pour citer le propriétaire et les autorités maritimes norvégiennes. Tir de torpille, selon l'armateur taïwanais, mais sur ce point, pas de confirmation de la Norvège. Le second bateau est un méthanier, le Kokuka Courageous, en provenance d'Arabie Saoudite. Son affréteur singapourien parle aussi d'attaque. Son propriétaire japonais évoque même des manœuvres de l'équipage pour éviter des tirs avant d'être finalement touché. Alors dans les deux cas, les équipages ont été secourus par la marine iranienne, 44 membres sains et saufs selon Téhéran, qui a d'abord parlé d'accident avant que les propriétaires des navires et la 5e flotte américaine basée à Bahreïn dans le golfe Persique confirment des attaques sans donner plus de détails. L'Iran, déjà pointé du doigt par Washington pour le sabotage de 4 navires dans la même zone il y a un mois, l'Iran qui avait démenti et qui s'interroge maintenant sur la coïncidence suspecte entre les incidents de ce matin qui ont visé notamment un pétrolier japonais et la visite inédite en Iran en ce moment même du premier ministre japonais Shinzo Abe, venu justement pour tenter de faire baisser la tension entre les Américains et les Iraniens.
Les États-Unis, merci Aurélien Colli, très présent militairement dans ce secteur, on l'a entendu, disent évaluer la situation. La Maison-Blanche fait savoir que Donald Trump est tenu informé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne les attaques contre des navires civils et le Conseil de sécurité se réunit en urgence ce soir. À Bruxelles, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, appelle à éviter les provocations. Bonsoir Christian Chesneau.
Bonsoir.
Gros plan avec vous maintenant sur ce détroit d'Ormuz qui relie le golfe Persique au golfe d'Oman. C'est par lui que s'écoule une grande partie du pétrole du Moyen-Orient et c'est donc un passage plus que stratégique.
Oui Sébastien, c'est une zone à très haute valeur stratégique. C'est par cet étroit couloir maritime que les monarchies du golfe exportent leur pétrole et leur gaz vers l'Asie et l'Europe. Bref, le détroit d'Ormuz est le principal poumon énergétique de la planète, explique Francis Perrin, spécialiste des questions pétrolières.
On estime que par ce détroit passent chaque jour des navires pétroliers, des tankers, transportant de l'ordre de 17 millions de barils chaque jour. Donc c'est absolument considérable, c'est à peu près un tiers du commerce pétrolier mondial. Le Moyen-Orient, c'est à peu près la moitié des réserves prouvées de pétrole dans le monde. Donc tout ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz, c'est toujours fondamental pour les marchés pétroliers et l'activité pétrolière à travers le monde.
Et ce n'est pas un hasard si le golfe Persique est puissamment défendu par les Occidentaux. Les Américains ont installé le QG de leur 5e flotte à Bahreïn, leur principale base aérienne au Qatar, avec 10 000 hommes sur place. La France dispose, elle, d'une base aéronavale à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis, où sont stationnés des Rafales. Parce que sur l'autre rive, eh bien, il y a l'Iran, aujourd'hui sous embargo, et qui a construit aussi des bases militaires navales. C'est donc une zone ultra sensible. On se souvient de la guerre des pétroliers dans les années 80 entre l'Iran et l'Irak, qui avait fait flamber les cours du brut.
Et les prix du pétrole, justement, ont immédiatement grimpé après les premières infos en provenance du Détroit. Le baril de brut prend 2% ce soir sur les marchés. Du Détroit d'Ormuz, nous partons plus à l'est encore, à Hong Kong, l'ancienne colonie britannique, rétrocédée à la Chine en 97 et toujours secouée par le projet d'extradition vers Pékin du gouvernement pro-chinois. Des centaines de milliers de personnes dans les rues ces derniers jours, un peu moins aujourd'hui, mais toujours des centaines de manifestants devant le Parlement local, en attendant le grand rassemblement prévu dimanche. Rassemblement notamment, Florence de Changy, à l'initiative de la jeunesse de Hong Kong.
La jeunesse de Hong Kong a fait ses classes politiques, notamment de désobéissance civile, en participant au mouvement des parapluies en 2014. Mais comme l'explique ce groupe d'étudiants lors de la manifestation de mercredi, l'enjeu, cette fois, est encore plus sérieux.
Dans le mouvement des parapluies, on ne faisait que demander le droit d'élire notre propre chef de l'exécutif. Maintenant, on demande juste de ne pas risquer d'être envoyé en Chine. C'est notre droit.
L'état de droit de Hong Kong doit être maintenu. Nous avons notre propre justice, nous ne voulons pas qu'on y touche. Ce sont tous des adolescents et des étudiants. Qu'est-ce qu'ils ont pour eux ?
Les jeunes Hongkongais sont conscients de la valeur de leur liberté, surtout par contraste à la Chine voisine, qu'ils sont censés rejoindre pleinement en 2047.
Nous voulons la liberté d'expression, la liberté de rassemblement, de religion que nous avons à Hong Kong. Mais cela n'existe pas en Chine.
Beaucoup pensent toutefois que le combat est perdu d'avance, mais ils estiment de leur devoir civique d'exprimer qu'ils rejettent le futur qu'on leur impose. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
Et Pékin soutient toujours les autorités locales et dénonce des émeutes ainsi que l'ingérence de l'Union européenne dans les affaires hongkongaises.
Nathalie Loiseau renonce à briguer la tête du parti centriste au Parlement européen.
Oui, la tête de liste de La République En Marche ne présidera pas le groupe Renouveler l'Europe, comme l'Élysée le souhaitait. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
Nathalie Loiseau, contrainte de jeter l'éponge au nom de l'unité, dit-on. Elle paye surtout sa critique en règle des personnalités du Parlement. C'était la semaine dernière devant la presse.
Oui, il faut dire que les confidences auxquelles elle s'est effectivement livrée se sont révélées sacrément salées. Elle a traité par exemple l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, auquel elle souhaite succéder à la tête du groupe parlementaire central. Elle l'a traité devant des journalistes donc, je cite, « de vieux de la vieille qui a des frustrations rentrées depuis 15 ans ». Idem, elle a qualifié d'ectoplasme le candidat à la présidence de la Commission européenne, l'Allemand Manfred Weber. Résultat, le poste qu'elle espérait et surtout qu'Emmanuel Macron convoitait pour elle de présidente du nouveau groupe Renaissance Europe, elle est obligée d'y renoncer. Alors elle a essayé de résister, mais ces derniers jours, les candidatures se sont multipliées, manifestement en réaction aux propos déplacés qu'elle a tenus à l'égard de ses propres alliés.
Alors voilà l'image de la délégation macroniste au Parlement européen, forcément ternie. Est-ce que le renoncement aujourd'hui de Nathalie Loiseau compromet les plans d'Emmanuel Macron ?
Alors oui et non. Oui, me confiait un député cet après-midi, Nathalie Loiseau est la risée désormais du Parlement européen. Jamais une telle situation ne s'était produite. Les eurodéputés macronistes se retrouvent au-delà de tout ce qu'ils avaient pu imaginer avant d'arriver, donc c'est compliqué. Et oui, les plans d'Emmanuel Macron sont un peu bousculés parce qu'il voulait partout des relais pour faire avancer son projet. Et Nathalie Loiseau, à la tête du troisième groupe européen, en était bien sûr un. Mais après une campagne qui n'a jamais réussi à imprimer, le pire aujourd'hui a sans doute été évité. Le projet macronien pourrait probablement être vraiment abîmé si elle s'était accrochée.
Et toujours au Parlement, merci Karine Bécard. Voici Identité et démocratie, le nouveau groupe souverainiste emmené par la Ligue italienne et le Rassemblement national. 73 députés, le double du précédent groupe d'extrême droite, qui compte dans ses rangs notamment les Allemands de l'AFD, les Autrichiens du FPO, mais ni les Polonais du PiS, ni le parti du Brexit de Nigel Farage. Le Brexit, c'est probablement Boris Johnson qui va devoir le gérer à Downing Street. L'ancien maire de Londres vire largement en tête Antoine Gignot au premier tour de l'élection à la tête du Parti conservateur.
Il y a quelques années, Boris Johnson disait qu'il avait autant de chances de devenir Premier ministre que de trouver Elvis sur la planète Mars. Eh bien, cet après-midi, l'ancien ministre des Affaires étrangères est clairement monté dans la fusée. Il arrive loin, très loin, devant les autres candidats. 114 voix au total, plus d'un tiers des parlementaires ont voté pour lui. En comparaison, Jeremy Hunt, Michael Gove et Dominic Raab, ses principaux rivaux, dépassent à peine à eux trois la centaine de voix. En fait, en promettant un Brexit rapide, une sortie de l'Union européenne, le 31 octobre, quoi qu'il arrive, Johnson réunit derrière lui la quasi-totalité des eurosceptiques. Mais il parle aussi aux députés plus modérés. Il se présente comme un gestionnaire ambitieux. « Je ferai avec le pays, dit-il, ce que j'ai réussi lorsque j'étais maire de Londres. » Les deux casquettes, eurosceptiques radicales et libérales favorables à l'immigration, sont évidemment inconciliables. Mais pour l'instant, le double discours fonctionne. Il reste presque 3 semaines de campagne. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Et le deuxième tour, c'est mardi. Le successeur de Theresa May sera connu d'ici fin juillet.
La fin est proche au procès Balkany pour blanchiment de fraude fiscale et corruption.
Patrick, Isabelle et Alexandre, soupçonnés d'avoir caché 13 millions d'euros au fisc entre 2007 et 2014 grâce à 11 sociétés écrans. Bonsoir Sarah Guibaudot. Le parquet national financier, Sarah, requiert 7 ans de prison ferme contre le maire de Levallois, 10 ans d'inéligibilité et 4 ans avec sursis, 500 000 euros d'amende contre Isabelle, son épouse.
Oui, dans son livre, Patrick Balkany se présentait en 2009 comme un homme au service des autres. Concordance des temps cruelle, assène le procureur. Il est en train d'acheter la villa de Marrakech grâce à de l'argent provenant de troubles affaires africaines et de troubles affaires levalloisiennes. Le magistrat se dit impressionné par l'esprit de sacrifice de l'avocat Arnaud Claude et de l'homme d'affaires et de l'homme de Levallois, Jean-Pierre Aubry, qui protège encore le maire. Quel pacte avez-vous formé? Il demande pour eux 2 ans de prison ferme, tout comme pour l'homme d'affaires Al-Jaber, accusé d'avoir sciemment corrompu un élu. Pour Alexandre Balkany, qui a l'excuse de la piété filiale, le procureur requiert 100 000 euros d'amende. Beaucoup ont cru que Patrick et Isabelle Balkany ne rendraient jamais de compte, regrette le procureur, pour qui il y a une attente et un devoir de justice, une injonction à laquelle l'avocat de Patrick Balkany, Éric Dupont-Moretti, répond par sa phrase habituelle.
Bon, écoutez, au bout d'un moment, la justice au pied du mur de l'exemple, ça a ses limites. 4 ans pour avoir fraudé, c'est déjà incroyable. Et 7 ans pour avoir planqué le pognon de la fraude fiscale. Mais on requiert aujourd'hui contre cet homme, qui est peut-être aujourd'hui l'incarnation du mal absolu dans cette France qui devient puritaine, ce que parfois on ne requiert pas dans les crimes de sang.
Le procureur financier a aussi demandé la confiscation des biens, les villas de Marrakech et des Antilles et le moulin de Giverny pour les Balkany et la maison de Deauville de l'avocat Arnaud Claude.
Sarah Guibaudot en direct du Palais de Justice de Paris avec Jérémy Thuil. Merci à tous les deux. Une perquisition aujourd'hui au domicile de Carlos Ghosn en région parisienne. Dans l'enquête sur son mariage au château de Versailles en 2016, les enquêteurs cherchent à savoir si l'ex-patron de Renault a bénéficié de 50 000 euros de la part de mécènes du constructeur automobile pour financer ses noces privées. Carlos Ghosn est toujours sous contrôle judiciaire au Japon pour abus de confiance et détournement.
Des bouquets de fleurs qui flottent au milieu des fumigènes.
Hommage aux 3 sauveteurs de la SNSM morts vendredi dernier au Sable d'Olonne en tentant de porter secours à un pêcheur. Emmanuel Macron devant plusieurs centaines de personnes et beaucoup de vestes orange, Marc Potvin, les couleurs des sauveteurs en mer.
L'orange des vestes des sauveteurs tranche sur le bleu du ciel. Plusieurs centaines de membres de la SNSM se tiennent à proximité du pupitre présidentiel quand Emmanuel Macron prend la parole.
La nation pleure 3 de ses enfants morts en héros parce que leur engagement, le sens qu'ils avaient donné à leur existence était de sauver la vie des autres.
Ces 3 sauveteurs et les 4 autres membres de l'équipage qui, eux, ont survécu, sont faits chevaliers de la Légion d'honneur, des décorations qui ont une signification forte pour le président.
À travers ces Légions d'honneur, c'est aussi toute une famille que la République souhaite honorer aujourd'hui, la famille des sauveteurs en mer.
Nous vous devons tant, vous qui sauvez tant de vies, poursuit le président. Christine, qui a suivi l'hommage, ne dit pas mieux.
Ce sont des héros, quoi. On peut avoir besoin d'eux tout le temps. Quand les enfants sont petits, qu'ils sont au bord de la plage, ils sont tout le temps là.
Cette petite fille de marin a suivi du regard le départ des cercueils à l'issue de la cérémonie. Emmanuel Macron les a accompagnés avant de s'arrêter devant le mémorial des péris en mer à proximité du lieu de l'hommage. Les noms des 3 marins disparus seront gravés dans le marbre de ce mémorial ces prochains jours.
Marc Potvin au Sable d'Olonne et le chef de l'État promet que le gouvernement se battra pour faire vivre ce beau modèle solidaire et fraternel du sauvetage en mer. Autre lieu, autre drame, les 2 enfants fauchés par une voiture dimanche à Lorient. La passagère de l'automobile est interrogée en garde à vue. Elle s'est rendue hier soir, risque 7 ans de prison. Mais le conducteur est toujours en fuite. 1 millier de personnes ont marché en silence dans les rues de la ville cet après-midi. Benjamin Illy.
Les enfants, les jeunes cousins étaient devant et derrière il y avait les anonymes, les Lorientais émus, cette communauté turque très soudée, une marche silencieuse émaillée de quelques rares éclats de colère dirigés contre le chauffard.
Un accident, ça arrive, mais là il est quand même parti, pour moi ça reste un assassin.
Oui, c'est dur.
Christelle Trapani, co-organisatrice de l'événement, ses enfants vont à la même école que celle des victimes.
C'est très très dur, c'est très très émouvant, mais en même temps c'est beau quoi, cette marche de solidarité, c'est tout le monde est là, tous les Lorientais, quelles que soient les frontières, quelles que soient les cultures et les religion, on est tous là.
Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à cette jeune femme qui s'est rendue, qui était la passagère?
Franchement non, j'ai rien à lui dire. J'ai juste à dire à, à la personne qui ne s'est pas encore rendue de se rendre, tout simplement.
Ahmet Makas, membre de l'association culturelle turque de Lorient, un ami de la famille de Bunyamin, 10 ans, tué dimanche sur ce bout de trottoir à deux pas du rond-point du Caryado, un trottoir aujourd'hui jonché de fleurs et de mots de condoléances.
La famille, parce que là je parle pas pour moi, mais je parle pour la famille quand même, parce que c'est la famille que je représente aujourd'hui. Voilà, elle veut juste que la justice soit faite, et que le protagoniste principal soit arrêté et soit mis devant ses responsabilités. Peut-être qu'en voyant l'élan de solidarité qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas s'il pourra l'avoir, mais qu'il se rende.
La famille proche de Bunyamin n'était pas là pour cette marche, mais en Turquie, pour enterrer le jeune garçon. L'autre enfant, âgé de 7 ans, est toujours hospitalisé dans un état grave à Brest.
Reportage à Lorient. Benjamin Ivy, les LBD 13 utilisés par les policiers l'an dernier, plus 200% d'après le bilan de l'IGPN, la police des polices, hausse surtout en novembre et décembre pendant les manifestations des Gilets jaunes. Les déclarations de politique générale se suivent, mais les chambres ne sont pas les mêmes. Les marcheurs sont majoritaires à l'Assemblée, l'opposition de droite au Sénat. Alors le discours de politique générale d'Édouard Philippe n'a pas eu la confiance ce matin au Palais du Luxembourg, où le vote était inédit. 181 abstentions, 93 votes contre et 71 pour. Du Sénat aux banlieues, voici le premier bilan de la politique de la ville du gouvernement. Tous les acteurs du secteur réunis à la grande halle de la Villette. On est un an après l'enterrement en grande pompe du rapport Borloo et le gouvernement Claire Chaudière veut clairement tourner la page de cet échec.
Une année entière se sera donc écoulée, les sourires sont revenus, mais le souvenir est encore frais.
Le président de la République prend la parole et enterre et Jean-Louis Borloo et son plan. On revient de loin parce que la vexation a été profonde.
Des choses ont tout de même bougé, concède Driss Etazaoui, vice-président de l'association Ville et Banlieue.
L'accélération de l'ANRU, par exemple, est une excellente nouvelle. À Évreux, les grues sont enfin revenues et les habitants se reprennent à espérer.
Mais dans la colonne des choses qui ne vont pas, ce tissu associatif extrêmement fragilisé dans les quartiers populaires, martèle le maire de Grigny. Philippe Rio.
Il y a eu un plan social ces trois dernières années dans le monde associatif. C'est étonnant parce que c'est les territoires les plus fragiles. On leur a enlevé un outil de cohésion sociale.
Sur ce point, le gouvernement annonce un plan de simplification des démarches pour obtenir des subventions et des financements désormais sur 3 ans. Rabat Mézine de la coordination Passons-nous à Roubaix est mitigé.
La simplification, c'est une bonne chose. Mais le niveau des moyens mis sur la table, pour nous, c'est très faible.
L'heure est au rassemblement et à la réconciliation plus qu'aux grandes annonces, comme pour remettre la machine en marche. Invité surprise de dernière minute, Jean-Louis Borloo lui-même, qui ne fera pas de grandes déclarations.
Par affection, j'en profite pour saluer par estime républicaine. Voilà.
Mais qui sera pris d'assaut par le public pour une série de selfies.
Je disais à M. Borloo, quel succès ! C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup fait pour nos territoires.
La page Borloo n'est décidément pas si facile à tourner.
Claire Chaudière, un appel à la grève pour mardi prochain, ici à Radio France. 6 syndicats appellent les salariés de la Maison Ronde à cesser le travail pour demander le retrait du nouveau plan d'économie qui prévoit notamment 270 à 390 suppressions de postes. On termine au château de Versailles avec une expo de photos qui donne à voir ce qu'on regarde pas ou peu. Visible, invisible, c'est le titre de cette exposition qui se déroule au Petit et au Grand Trianon ainsi qu'à l'Orangerie de Jussieu et au Pavillon Fray avec Isabelle Pasquier, de grands noms de la photo.
Loin des dorures de Versailles, Nan Goldin, photographe américaine de l'underground de New Yorkais, nous embarque dans les souterrains, les énormes systèmes de tuyaux qui alimentent les bassins de Versailles. Activiste féministe, elle rend hommage à la marche des femmes sur Versailles en 1789. Nan Goldin et son regard politique sur Versailles.
J'ai découvert la marche des femmes sur Versailles de 1789. C'est l'un des moments les plus décisifs de la Révolution et que, bien sûr, l'histoire a enterré. Personne ne le sait, c'est pourquoi j'en parle. Donc j'ai pensé que c'était important de redonner une voix à ces femmes et c'est particulièrement pertinent en ce moment.
Beaucoup moins politique, les photos de Martine Parr, qui depuis 35 ans shoote les touristes, convenues et sans humour. Plus métaphysique et poétique, les images de Dov Alouche, il a fait réapparaître la beauté des cristaux de gypse qui forment l'essentiel des stucs et plâtres de Versailles. Résultat assez fascinant, avec des cristaux qui forment de vrais tableaux abstraits aux couleurs pop qui datent de plus de 300 000 ans.
C'est aussi, d'une certaine façon, une sorte de mélodie qui viendrait de sous terre. Mon idée, c'était vraiment de basculer les choses vers un temps géologique, en fait, qui rend un peu vain toutes nos actions.
Et face à ce temps géologique, on a l'impression que Versailles a été construit juste hier.
L'exposition s'appelle Versailles, visible, invisible. C'est jusqu'au 20 octobre.
Et c'est noté. Merci beaucoup, Sébastien Paouron.